BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderie.
Soyez toutes et tous les bienvenus pour cette nouvelle édition de Tout pour investir, TPI dans votre poste hein, sur BFM Business. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web. Évidemment, toutes nos chroniques sont à retrouver en podcast et en replay. Votre bibliothèque du parfait petit investisseur. Alors, l'IA est de plus en plus au cœur des marchés. Vous le savez, on vous en parle à longueur de journée. Hyperscaler, champion des semi-conducteurs, des sommes folles, un horizon toujours bien flou quand même, faut le dire. Et ça, c'est pas sans tracasser pas mal d'investisseurs financiers. Bulle ou pas bulle, finalement, peu importe désormais, on est dans un état d'esprit qui va un peu au-delà du rationnel, avec des investissements colossaux exercés avec des effets de levier dingues, des valorisations sur lesquelles on a du mal à voir clair, et à l'aube d'un été qui s'annonce par ailleurs quand même technique et turbulent pour tout un tas de raisons. Il y a une légère angoisse qui étreint les marchés, si on peut dire. On va essayer de débroussailler le terrain avec nos déchiffreurs du jour. Christian Fontaine du magazine Le Revenu, Félix Baron du Club des investisseurs indépendants. Point technique et plan de trading détaillé si vous êtes exposé aux actions avec Gilles Santacreux de Boursicoté.com. Et puis, point de vue très très intéressant. Comment cette ratatouille potentiellement explosive impacte le métier de CGP au quotidien ? Hein, témoignages et sentiments des gens du métier. C'est toujours important de les avoir à l'esprit avec Romain Joudelat tout à l'heure de Rochebelle Gestion Privée. Il sera avec nous. La boîte à outils aussi, sous les mains de Jean Galadima, profitera de la pause entre deux canicules pour nous dire qu'il est sans doute urgent, à ce titre, d'investir dans l'infrastructure. Point complet avec lui tout à l'heure. Enfin, on prend le frais en fin d'émission dans le coffre-fort, direction la Belgique, terre incroyable, fondatrice dans le domaine des arts décoratifs, et gros plan sur un grand nom en la matière qui est en train d'exploser sur le marché, celui d'Ado Chal. L'occasion de faire un focus sur un grand nom du patrimoine en matière d'art déco, peut-être l'occasion de vous intéresser en tant qu'investisseur à ce marché, alors vraiment très très porteur. On en parlera avec les experts de la maison Agut en fin d'émission. Vous pouvez nous poser toutes vos questions par mail direct@bfmbusiness.fr, par SMS 73216, le mot-clé business suivi de votre question, ou me poser vos questions directement sur mes comptes Twitter et LinkedIn. Le reste de l'actualité du jour, il y a donc à boire et à manger dans les annonces de Donald Trump pour les décisions de la Cour suprême. Il y a d'un côté, la Cour lui offre le pouvoir de limoger à sa guise des responsables d'agences fédérales, en l'occurrence une commissaire de la FTC, l'autorité américaine de la concurrence. Mais la Cour suprême a mis la Fed à l'abri, au moins pour le moment, et a dit non au licenciement de la gouverneure Lisa Cook, qui reste donc en poste. Donald Trump a confirmé que des discussions auraient lieu aujourd'hui à Doha, au Qatar, entre Américains et Iraniens. Le président américain qui se félicite à cette occasion que les prix du pétrole baissent. On est à 73,80 $ sur le Brent de mer du Nord là en ce moment. Réunion importante ou pas, d'après lui. Et d'après son administration, en tout cas, il s'agit de réunions de haut niveau avec les Iraniens qui, eux, confirment se rendre à Doha, mais pour des rencontres techniques, sans négociation directe. Téhéran a par ailleurs répondu non à la proposition française de déminage du détroit d'Hormuz en appelant Paris à pas compliquer davantage la situation. Dans moins de 24 heures, c'est l'entrée en vigueur du congé naissance. Un ou deux mois de plus indemnisés par la Sécurité sociale pour les parents après leur congé maternité ou paternité. De quoi remplacer le congé parental, estime Aurore Berger, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle était avec nous dans Good Morning Business ce matin. Entrée en vigueur aussi demain du droit de douane européen sur les petits colis chinois, 3 € par paquet. C'est pourquoi le gouvernement français annonce ce matin suspendre sa propre taxe de 2 € qui n'est plus justifiée dans le marché unique et qui par ailleurs était largement contournée. Et puis les précisions du ministre sur la prolongation des soldes, ce sera 7 jours de plus jusqu'au 28 juillet pour tenter de compenser la faible fréquentation des magasins pendant la canicule. Tout de suite, le tableau de bord de vos marchés.
Tout pour investir, le tableau de bord.
Un marché français qui manque encore cruellement de dynamique. On est sur une progression, d'accord, plus 0,25%. 8388 points. On a quand même un peu de mal à se dépêtrer de ce poteau noir depuis une dizaine de jours. À noter que les autres marchés européens se comportent quand même un peu mieux. L'Eurostock 50, plus 0,8%, plus 0,9% pour le DAX à Francfort. À noter que Madrid est quasi inchangé, plus 0,07% pour l'indice IBEX. En revanche, une très belle performance de l'Euronext Tech Leaders, encore une fois, qui surperforme nettement l'ensemble du marché. Les valeurs tech européennes bien orientées, on gagne 1,3%. Du côté de Paris, toutes les valeurs liées à l'intelligence artificielle. Globalement, Schneider Electric, plus 2,95 à 286,30 €. Le Grand, plus 2,53 148,15 €. On a ST Microelectronics dans les semi-conducteurs qui gagne 2% à 64,88 €. Et puis à noter sur le SBF 120, alors la hausse tonitruante d'Abivax. Bon alors, titre très très spéculatif. Mais là en plus, la biotech a annoncé des résultats positifs pour une de ses molécules en test et le titre gagne quasiment 34% à 111,60 €. Alors vous allez me dire pourquoi, avec toutes ces nouvelles et tous ces beaux mouvements, ces belles hausses, le CAC 40 ne fait que stagner hein, globalement, mais tout simplement parce que de l'autre côté du tableau, sur le CAC 40 en tout cas, il y a le secteur du luxe qui pèse. Kering qui pâtit d'une opinion négative de Citigroup qui reste à neutre, mais alors qui abaisse son objectif de cours. Le titre perd 5,2%, hein, 251,75 € pour Kering. On a également le reste du secteur du luxe. Hein, dans le sillage, LVMH perd 1,9%, 483 €, Hermès moins 1,39, 1593. À signaler les grands disruptés de l'IA, le secteur des logiciels qui repart à la baisse, la granularité du secteur tech reprend. Capgemini perd 2,14% à 88,60 €. Puis alors à signaler Téléperformance, séance très difficile, à nouveau moins 13,3% à 45,05 €. Déjà des mouvements de forte baisse dus aux craintes de disruption, hein, précisément autour de l'IA. Mais là en plus, on est dans le sillage du profit warning d'un de ses concurrents américains, Concentrix. C'était hier soir après la clôture de Wall Street et donc Téléperformance qui perd 13,5%. L'euro-dollar est repassé sous 1,14, on est à 1,1393. Un petit mot de l'once d'or fin, nouveau coup de faiblesse hier, mais on reste au-delà des 4 000 $ l'once à 4 031. Et le pétrole, je vous le disais dans les titres, 73,50 $ pour le Brent de mer du Nord et 70,40 $ pour le brut léger américain. Courons déchiffrer l'actualité du jour.
Tout pour investir, le déchiffrage.
Félix Baron du Club des investisseurs indépendants. Bonjour Félix.
Antoine, bonjour.
Et Christian Fontaine du magazine Le Revenu.
Bonjour Antoine.
Merci d'être là. Oui, l'IA, bulle ou pas bulle, finalement, la question elle est vite répondue, comme dirait le grand philosophe du 21e siècle. Mais au-delà de ça, on a l'impression de plus y voir clair nulle part. On a eu une belle hausse du côté de Wall Street hier soir, on ne comprend pas trop pourquoi. On entend des somme record d'investissement, encore une fois, alors du côté de la Corée du Sud, du côté des hyperscalers, etc. On doute encore beaucoup de la rentabilité de ces investissements, même si globalement, beaucoup d'entre eux arrivent à afficher des comptes qui sont quand même tout à fait investissables. Malgré tout, on sent un vrai coup de pompe des marchés à ce niveau-là, Félix. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi ?
Oui, bah plus ça va et plus le marché achète un petit peu moins, avec un petit peu moins de candeur, les modèles tech IA, plus le marché devient sélectif et se demande où est-ce qu'on va avoir soit le plus de croissance, la meilleure croissance, c'est un petit peu encore à la course là-dessus, ou bien les plus prudents maintenant, la meilleure combinaison, et je vais en reparler, entre la croissance et la rentabilité, ou bien carrément, il y en a qui commencent à jouer, même les cash machines de la tech, il y en a, elles sont assez décotées, et ça aussi, j'en parlerai. Donc, de la prudence, et puis un peu moins d'illusions sur les super cycles de la tech et de l'IA. Il y en a encore un peu sur la mémoire, il y en a encore un peu sur, sur certains fournisseurs de fournisseurs, mais disons que l'euphorie devient plus sélective. Quoi.
Ouais, de fournisseurs qui financent les premiers fournisseurs pour pouvoir acheter la fourniture des autres.
Oui, et puis sur ce que vous disiez, quand on parle de est-ce que ces investissements lourds, ces capex en infrastructure sont rentables, en fait, le trou à 200 milliards qui est devenu le trou à 600 milliards de l'IA qui aujourd'hui a un trou à plusieurs milliers de milliards, c'est toujours la même question. C'est, si vous vendez une puce Nvidia à 2 $, il faut que l'IA, le marché IA génère 6 $ de revenus pour amortir.
Ouais.
Donc vous prenez maintenant le chiffre d'affaires annuel de Nvidia, vous le multipliez par 3 et vous avez une idée de ce qui manque dans le marché pour retrouver ces petits.
C'est fou quand même, ça devient macroéconomique. Christian Fontaine, on le disait, on continue à le dire, l'été promet d'être un petit peu tumultueux. Alors, pour tout un tas de raisons, pour tout un tas de facteurs techniques, de facteurs monétaires, il va vraiment falloir surveiller ça comme du lait sur le feu. En plus, il y a cette crainte de crevaison en règle d'une bulle absolument monstrueuse. Il y a tout un tas de graphiques, on s'en est fait l'écho aussi, qui ramènent à 2001 et l'explosion de la bulle Internet. Au-delà de ça, quand on est investisseur, il faut garder la tête froide et il faut serrer les priorités. On en est toujours là et fondamentalement, on ne va pas avoir un été tranquille. Et si on veut prendre soin de son patrimoine, va pas falloir rester trop longtemps au soleil.
C'est absolument certain, il faut écouter des bonnes émissions et avoir de bonnes lectures. Moi, je vous propose de citer le rapport sur la stabilité financière de la Banque de France. C'est sorti il y a quelques jours, le 24 juin, et que peut-on y lire ? Les marchés, j'ouvre les guillemets, les marchés d'actifs risqués, notamment les actions américaines, restent vulnérables à un brusque retournement des sentiments des investisseurs. En fait, la Banque de France, la très sérieuse Banque de France, tire un tout petit peu la sonnette d'alarme, mais sur deux points précis. D'abord, les valorisations. PER anticipé à 12 mois du Standard & Poor's 500 à 21 contre 14 pour le CAC 40. Un écart qui s'explique par la concentration du Standard & Poor's 500 sur les valeurs tech. On en parle dans chaque émission et au revenu aussi. C'est seul, les 7 magnifiques pèsent 32% de l'indice phare américain. Si on les corrige de ces 7 capis, le PER du Standard & Poor's 500 tombe à 13,5. C'est en fait à un niveau assez comparable de ses homologues européens. Alors, au-delà des valorisations, la Banque de France insiste beaucoup sur un facteur de fragilité qui est autour de ces deux lettres IA magiques, entre guillemets, qu'on a déjà prononcées une dizaine de fois depuis le début de l'émission il y a quelques minutes. Et la Banque de France s'inquiète en particulier des réactions brutales des marchés aux nouvelles sur les fondamentaux de ces entreprises et en particulier des surréactions lorsque les résultats et les résultats semestriels vont commencer à tomber, lorsque les résultats sont inférieurs aux attentes des analystes. Alors, il ne s'agit pas pour autant de paniquer. Il est absolument hors de question de mettre en place ce qu'au revenu on appelle la stratégie de l'essuie-glace, c'est-à-dire totalement à gauche ou totalement à droite. Il n'empêche que c'est quand même, je dirais, le moment de se poser un certain nombre de questions. Et au revenu, on en voit trois questions. Assurez-vous d'abord, quel est le poids ? En fait, c'est quel le poids ? Quel est le poids des actions dans l'ensemble de votre patrimoine ? Est-ce que c'est compatible avec votre profil d'investisseur ? On pourrait y revenir. Toujours. Quel est le poids de la tech dans l'ensemble de votre portefeuille ? Au revenu, on met la barre à 20%. Au-dessus de 20%, attention. Et quel est le poids des liquidités ? On l'a bien vu en 2022. Lorsque les marchés actions et obliques corrigent, la stratégie américaine historique du 60-40 ou du 50-50, 50% actions, 50% obliques ne marche pas. Et donc, je pense vraiment que dans la conjoncture actuelle, si on veut se prémunir et se mettre à l'abri d'un éventuel coup de grisou, il faut avoir une poche de liquidité. Ça me paraît très clair. Vous commenciez, Antoine, cette émission avec une pointe d'humour sur la bulle sur l'IA. Je pense qu'il faut se souvenir quand même, Alan Greenspan, c'était en décembre 96, l'exubérance irrationnelle des marchés. Oui. Ça a tenu quand même 3 ans et 4 mois avant l'explosion de la bulle en mars 2000. Donc je pense que beaucoup de gens sont conscients qu'il y a des valorisations très tendues, notamment autour des entreprises de l'IA. Maintenant, ce n'est pas une raison suffisante pour quitter le marché, car ça peut durer bien longtemps.
Alors, on va détailler un petit peu les proportions qu'on peut avoir en termes d'actions, en termes d'actions tech, etc. Au-delà de ça, avant d'attaquer ça, Félix, il y a peut-être aussi des affaires à faire là-dedans. On commençait à en parler, il y a presque de la value maintenant dans la tech, tellement le marché est devenu granulaire, en fait, si on peut dire.
Oui, c'est vrai que c'est le terme à la mode, granulaire. Et Christian le disait bien, attention maintenant à la pondération de certaines boîtes dans les indices. Parce que la stratégie indicielle de mettre sur un ETF et d'attendre que ça passe ou que ça passe, et j'espère pas que ça casse, elle devient dangereuse quand vous avez des SpaceX, quand vous avez des Tesla, quand vous avez des Nvidia, etc., qui sont surpondérés dans l'indice. Donc, ma question en ce moment, et mon discours, est de dire qu'il faut être de plus en plus sélectif sur les valeurs tech IA et de continuer à s'exposer à la croissance du secteur, mais avec de plus en plus de sécurité et de sélectivité. Donc, comme on rentre dans la période des soldes, même si c'est plus ou moins les soldes toute l'année maintenant, on sait que c'est quand même plus marqué généralement à la fin de l'hiver et au début de l'été. Je suis allé regarder 10 actions tech qui me paraissent celles qui coûtaient le moins cher et qui avaient beaucoup baissé depuis certains mois. Et quand je dis beaucoup baissé, je ne parle pas forcément du cours de l'action. Je parle d'indice de cherté par rapport à leur pair. Donc, on va ressortir le ratio ultra connu de PER, c'est-à-dire donc de combien vous achetez les bénéfices, capitalisation divisée par le résultat, mais j'aime bien le croiser aussi avec le PEG, c'est-à-dire combien vous achetez la croissance de ces bénéfices. Et c'est important quand on parle de la tech, un secteur autant en croissance.
G pour growth, j'imagine.
G pour growth, exactement, ouais. Antoine, vous connaissez vos classiques. Donc, j'ai pris quand même 5 filtres. Le premier, c'est la croissance du chiffre d'affaires. Je veux que la croissance soit au moins à deux chiffres et au-delà de 20% si possible. Deux, avoir un modèle robuste, plutôt désendetté, connu depuis plusieurs années, avec des barrières concurrentielles importantes. Trois, une forte marge. Et puis, je reviens sur mes deux indicateurs. Un ratio PER pas très cher, si possible en dessous de 25, et un ratio PEG pas cher du tout, si possible en dessous de 1, c'est rare, mais quand on l'atteint, vous allez voir qu'on peut faire des bonnes affaires. Et je suis tombé sur... Je vous ai fait un top 5. Dans le top 5, il y en a 4. Vous êtes forcément client. Ouais. Vous allez voir. Je commence donc par Meta Platform. Si vous n'avez pas Instagram, vous avez probablement WhatsApp. Ouais. Si vous n'avez pas WhatsApp, bah, je ne sais pas où vous êtes. Vous nous regardez peut-être d'une caverne, mais il y a Facebook, il y a WhatsApp, il y a Instagram. C'est le roi de l'efficacité. Meta Platform, vous avez une croissance de 33% du chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois. C'est soutenu par quoi ? Par l'intégration de l'IA dans les algorithmes publicitaires sur Facebook, sur Instagram. J'ai jamais été aussi bien ciblé qu'à l'approche de l'été. Hein. J'ai l'impression qu'Instagram m'écoute.
Cette impression-là.
Hein, ouais, avec accurate, une marge hallucinante de 41%, une marge opérationnelle de 41%, et pourtant un ratio PER de 18 fois. 18 fois, on est loin des 30, 40, 50 qu'on a connus sur la tech. Un PEG en dessous de 1 à 0,94. Donc là,
on est même en dessous de 1 de PEG.
Vous avez une croissance de start-up avec des marges de LVMH au prix de Danone. En gros, au prix d'une bonne paire de famille. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est le top 1. Je commence par là. Ensuite, 2, Broadcom. Alors Broadcom, vous n'êtes pas forcément client ou alors indirect. Là, on n'est pas forcément sur les puces IA classiques à la NVIDIA. On est sur les puces IA customisées. Ouais. Mais... il y a encore une demande très forte, hein, la preuve, 48% de croissance sur les 12 derniers mois, 67% de marge opérationnelle. Là, c'est sûr qu'une fois que c'est lancé, vous êtes très, très bénéficiaire. Alors, le ratio PER, il est à 54. Donc là, on peut se dire que c'est cher, mais par rapport, en fait, au trimestre précédent, c'est moins cher. Mais surtout, le PEG, la croissance des bénéfices, elle est à 0,54. Donc, ça peut être un ratio qui est cher, mais la croissance des bénéfices, elle s'achète de manière pas chère.
D'accord.
3, vous êtes tout le monde des clients, c'est Alphabet, Google, globalement.
C'est Internet, etc. Voilà.
Alors, ça va très vite dans le cloud, ça va très bien dans la pub, hein, on encaisse bien les résultats, mais Wall Street n'a pas encore fait payer ça dans le cours. Mmh. 22% de croissance grâce au cloud, grâce à un marché de la pub assez stable. Marge opérationnelle de Google, alors pour le coup, c'est 31%, mais c'est pas en 2026, c'est historique cette marge. Donc, on sait qu'elle est capable de la défendre encore plusieurs années. PEG, 0,55. En gros, le marché ne paye absolument pas la croissance de Google alors qu'elle est là, tous les trimestres à deux chiffres. Ouais. Et avec ce niveau de cash et ce niveau de résultat, c'est une très très bonne marge de sécurité. Mmh. Google doit s'échanger entre les 320-360 $ la dernière fois que j'ai regardé. Il y a une affaire.
Bon.
En 4, vous avez Microsoft. Ouais. Là aussi, si vous n'êtes pas client...
Ça fait des mois qu'on le dit. Hein.
Oui, mais Microsoft, moi, je continue à le dire. Je l'ai dit à 450, je l'ai dit à 420, je le dis à 360. Ouais. D'autant plus. Et pas pour me donner raison parce que ça baisse. Non, je préférerais que ça monte. C'est juste que là, c'est plus une affaire, c'est un hold-up. Vous pouvez acheter la forteresse, la cash machine de la tech la plus rentable pour probablement le PE le moins cher du marché à 22 fois. Et une marge de 44%. Là aussi, PEG inférieur à 1, 0,74. Mais au-delà de ça, Microsoft, cette année, au dernier trimestre, ils vont arriver à un stade où ils font plus de 100 milliards de revenus par trimestre. Donc, c'est plus une grosse boîte de la tech ou une magnifique. C'est un mastodonte. Les problèmes qu'il y a sur la mémoire des Xbox, sur le ROI du cloud avec Azure, quand on voit la croissance qu'il y a derrière, c'est des problèmes qui existent, mais c'est absolument pas critique pour Microsoft. Et je finis sur Netflix, et ensuite je pense que Christian va vouloir me dire quelque chose.
Oui.
Netflix, très intéressant, parce que là, vous avez du cash et de la croissance, et vous n'avez pas à vous prendre la tête sur les investissements de l'IA.
Ah non, on est hors cadre.
Tout le monde comprend le modèle. Et d'ailleurs, dans les 5 boîtes dont je vous parle, à part Broadcom, tout le monde capte le modèle assez vite. Mmh. Netflix, c'est le PEG le plus faible du tableau, hein, 0,52. Vous avez des marges opérationnelles qui continuent d'augmenter parce qu'elle a déployé son modèle mi-pub, mi-payant, le moins cher. Le modèle de partage de comptes existe aussi. Ouais. Le modèle est clair, tout le monde le comprend. Les concurrents existent, mais ils sont beaucoup moins nombreux parce que Netflix a l'avantage d'être pionnier. Je veux dire, là, pour le coup, c'est encore une fois du cash et de la croissance à moindre coût.
Bon, y avait quelques petites affaires à faire. Alors, voilà, ça, c'est de la théorie. Il y a aussi l'irrationalité des marchés qui rentre en ligne de compte. De quoi, voilà, justement, rester prudent et en termes d'allocation d'actifs, de répartition en termes d'actions et en termes d'actions particulières. Voilà, l'été s'annonce prudent et il faut le voir comme ça.
Je vais être cohérent avec ce que je viens de vous dire il y a quelques minutes. C'est-à-dire, j'incitais plutôt les auditeurs et les auditrices à se constituer une poche de liquidité. Ouais. Je pense que ce n'est pas forcément le moment de faire son marché. Après ça... si vous voulez véritablement, vous avez déjà une poche de liquidité, vous voulez déjà essayer de vous renforcer. Moi, je trouve que il y a dans la valeur de, dans les valeurs de conso, il y a le luxe français, voire des mid-cap comme Seb, qui peuvent présenter des ratios de valorisation encore plus intéressants. Je me positionnerais peut-être un peu plus sur ces valeurs délaissées que sur les 7 magnifiques, même si c'est vrai que les ratios de valorisation des 7 magnifiques sont, je dirais, relativement raisonnable par rapport à leur croissance, et on n'est pas dans les ratios des microprocesseurs. Il n'empêche que j'ai bien peur qu'en cas de retournement des marchés, notamment du retournement de la tech, le bébé parte un peu avec l'eau du bain, et que donc j'invite vraiment, alors il ne s'agit pas de se retirer entièrement des marchés, mais je pense quand même qu'il faut être relativement prudent dans la conjoncture actuelle.
D'autant que cette prudence peut être aussi alimentée par le fait que, et effectivement c'est tout à votre honneur de chercher d'autres ratios pour alimenter votre grille de lecture. Tout ce qui est PE, tout ce qui est finalement tout ça devient très très relatif, et le marché va plus piffer là-dessus, hein. En fait, il va directement capter la dynamique.
Alors, vous savez, je pense qu'essayer de deviner quel sera le niveau des grands indices dans quelques mois, c'est intéressant, mais je pense qu'il est les investisseurs particuliers ont davantage à gagner à s'interroger véritablement sur leur portefeuille, la composition de leur portefeuille et les critères à prendre en compte. On ne parle pas assez, par exemple, du taux de rotation d'un portefeuille. Warren Buffett, on le cite très souvent, et c'est vrai que Warren Buffett, il milite pour des rotations de portefeuille très faibles, investit pour le long terme, donc c'est du buy and hold avec des rotations inférieures à 5 ou 10%, c'est-à-dire le total des ventes rapporté à la valeur moyenne du portefeuille chaque année inférieur à ce type de ratio. Je pense que c'est intéressant de regarder. Mmh. C'est intéressant de regarder aussi la diversification et surtout la concentration de votre portefeuille. Que pèse le top 1, le top 5, le top 10 de votre portefeuille, c'est-à-dire le poids de l'action la plus importante au sein de votre portefeuille, est-ce qu'elle pèse 5, 10, 15 ou 20%, le top 3, le top 10, et ça, ce sont des ratios qu'il faut vraiment avoir en tête, et calculer ces ratios pour votre portefeuille, et ça vous donnera des pistes d'investissement ou de désinvestissement.
Allez, le mot de la fin en quelques secondes, Félix.
Non, mais c'est vrai, là, mon analyse sur les 5 actions est, je pense, valable tant que le marché continue à acheter de la croissance.
C'est ça.
Quand il se retourne, notamment à la faveur d'une hausse des taux d'intérêt, le marché va chercher à acheter du cash et du rendement. Et là, Christian a sans doute raison, il y aura eau du bain, bébé, mémé, orphi, tout ce que vous voulez. On va tout balancer et on va chercher de l'énergie et des dividendes.
Ouais, on va être très prudent cet été, encore une fois. Merci infiniment, Félix Baron, Club des investisseurs indépendants, Christian Fontaine du magazine Le Revenu. On passe aux arbitrages.
Tout pour investir. Arbitrage.
Gilles Santacreux, boursicoté.com, un CAC 40 toujours un petit peu enlisé.
Bonjour.
À côté des 8400 points, juste en dessous, 8390. On est en hausse de 0,27%, mais alors on sous-performe assez nettement et l'Europe boursière et Wall Street finalement.
Oui, le CAC 40, il est en train de construire une deuxième marche d'escalier. Alors, ce qu'il faut bien voir un petit peu pour comprendre la construction technique actuelle, on regarde ce qui se passe entre le 22 mai et le 11 juin, et on avait un range d'environ 200 points, c'est-à-dire grossièrement entre 8100 et 8300 points. On a évolué d'une manière quasi horizontale dans ce range avant de remonter d'un seul coup. Donc, on a eu un gap haussier, gap qui n'a toujours pas été comblé d'ailleurs le 12 juin. Et depuis, on oscille entre 8300 donc et 8500 points. Donc toujours 200 points. On est dans une phase de range, dans une totale phase d'indécision. On voit d'ailleurs que l'on a eu très peu de volume hier, mais c'était déjà le cas sur les séances précédentes. Et donc là, je dirais qu'on se balade au milieu. On a une petite zone de support à 8370 points que l'on tient. On est autour de cette zone depuis maintenant une semaine. Et globalement, on ne sait pas trop où on va aller. Alors l'été arrive, on sait qu'on va avoir une petite baisse de volume, une baisse de la contrepartie. Et pour le moment, je dirais que la dynamique, elle est légèrement haussière. Pour cela, il faudrait confirmer la cassure des 8500 points et se diriger vers les niveaux records. D'ailleurs, je vous rappelle que nous avons eu des records si on réinvestit les dividendes le 15 juin. On le voit sur le CAC 40 GR. Donc globalement, petite dynamique haussière, mais qui manque de conviction. On a des niveaux de retournement qui sont assez éloignés, puisqu'il faudrait repasser sous la zone 8090-8100 points pour redéclencher des alertes baissières, mais pour l'instant, effectivement, très peu de volatilité sur le marché parisien.
Gilles, il y a quand même un petit événement qui a secoué le marché hier après-midi. Alors, on en sort un petit peu là, mais on a eu un record de faiblesse du côté du yen par rapport au dollar. On était quasiment à 168 yens pour un dollar. C'est du jamais vu depuis 1986. Ça devient invraisemblable. On sait que l'été est riche en déséquilibre monétaire dans les marchés où il n'y a plus trop de liquidités, où il y a beaucoup d'intervenants qui ne sont pas là. Et on sait que ça peut craquer sur des problématiques comme ça. Est-ce que vous voyez des indices techniques qui pourraient signifier de nouveaux records de faiblesse du yen et donc de gros déséquilibres à gérer pour les semaines à venir?
Alors c'est 162 yens hein, pour un dollar. Oui, effectivement, on les a dépassés. Ouais, ouais. On n'est pas monté à 168. Hein. Là, le fait que l'on casse 162, c'est un signal très fort. Pour information, la crise du carry trade que l'on avait eue en 2024, on était à 161,97 au plus haut. Hein. Donc là, on est au-delà de ces niveaux. On est sur des niveaux qui datent de 1986. Alors contre le dollar, hein, au niveau de la faiblesse du yen, on n'avait pas encore l'euro en 86, donc c'est difficile de comparer. Mais on est sur une faiblesse du yen qui devrait appeler des actions de la Banque centrale du Japon. C'est ce qu'elle avait fait donc justement en 2024. Et là, le fait que l'on soit sur des niveaux supérieurs sans action de sa part peut laisser craindre justement pendant l'été, avec justement une moindre contrepartie, une volatilité plus élevée. Donc il faut s'attendre à des mouvements, puisque là, on est sur des niveaux que la Banque centrale du Japon va vouloir défendre au niveau de sa monnaie.
Oui, effectivement, pardonnez-moi, c'était 161,80 le record d'hier après-midi. Et effectivement, ce matin, 162,29. Donc, la situation ne s'arrange pas du tout. Gilles, on peut peut-être terminer par un mot de l'or. Il y a toujours une forte pression autour des cours de l'or sur les 4 000 $. Là, on est à 4 031, avec toujours des petites incursions sous le seuil symbolique, alors de manière très, 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 très ponctuelle. Mais on sent que là, la configuration ne s'arrange pas non plus.
Alors, le point technique à surveiller sur l'or, c'était le point bas du 23 mars. On avait eu une forte phase de volatilité. On était venu chercher un point bas proche des 4 100 $ l'once. Et puis, on avait commencé à remonter, mais le rebond était resté purement technique. On est venu tester cette zone le 10 et le 11 juin. Là aussi, rebond technique. Et puis, la semaine dernière, on a cassé cette zone des 4 100. Et on l'a même testé vendredi et hier comme zone de résistance. Donc, tout cela confirme dans cette construction technique la dynamique baissière sur l'or. Au niveau des 4 000, j'ai pas grand-chose. J'ai une prochaine zone technique qui pourrait faire office de support et donc d'objectif à 3 890 $ l'once. Par contre, sous ces niveaux, effectivement, on pourrait encore accélérer, mais 3 890 reste le niveau à surveiller pour la suite, tant bien sûr que l'or ne repasse pas au-delà des 4 100 $ l'once.
Merci beaucoup Gilles Santacreux pour cette analyse multisectorielle, on peut le dire. Le CAC 40, plus 0,32%, 8 393 points. Restez avec nous, une petite pause, et puis dans un instant, TPI, on reçoit Souleymane Jean Galadima. Et on va parler des infrastructures. Oui, entre deux canicules, c'est peut-être le moment de s'y intéresser. À tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderie.
Avec la boîte à outils, on ouvre la boîte à outils. Souleymane Jean Galadima de Sapiens, bonjour.
Bonjour Antoine.
Merci d'être là. On est un peu entre deux canicules. Là, on a vécu une jolie période de thermostat 12, position gratin. Et on s'achemine sans doute vers un nouveau week-end où les températures vont grimper. Alors, on espère pas autant que la semaine dernière, mais... Voilà, quand on est investisseur, quand on est observateur de marché, ça nous met le nez dans un problème. Une dynamique d'investissement en plus qui est véritablement patente depuis un an et demi, les infrastructures. Les infrastructures, l'eau, l'électricité, etc. On parle souvent des valeurs ennuyeuses du CAC 40. Ben non, elles sont pas ennuyeuses du tout, elles sont même au cœur du truc finalement.
Elles sont au cœur de la solution, puisqu'elles sont en quelque sorte le squelette de notre société. Beaucoup d'investisseurs en fait ignorent ce que sont réellement les infrastructures. Parce qu'en fait, elles sont variées. C'est déjà des actifs réels, tangibles, et elles couvrent en fait toute une série d'activités. Les infrastructures, ce qu'on appelle sociales, donc on en a parlé pendant la canicule, hein, les hôpitaux, les écoles, et on voit qu'elles ont besoin de capitaux pour être construites, rénovées, entretenues. Tous les sujets relatifs à l'énergie conventionnelle ou énergie renouvelable, tous les sujets également relatifs au transport et naturellement aussi les télécommunications avec les besoins d'électrification et également de serveurs. Donc un pan relativement large et souvent en fait une classe d'actifs qui est assez peu présente dans le portefeuille des investisseurs. On parle beaucoup du private equity, ouais. Mais en fait le marché des infrastructures croît plus vite que celui du private equity. On est grosso modo aujourd'hui en 2025 à environ 1700 milliards en cours sous gestion, ouais. Si on prend tous les fonds d'investissement d'infrastructure, on vise 3000 milliards en fait à horizon 2040. Donc on va quasiment doubler cet encours parce que les besoins en fait sur l'ensemble de ces sujets sont particulièrement importants et que autant dans les années 2000 au début des infrastructures, c'était plutôt une classe d'actifs pour les investisseurs institutionnels, aujourd'hui, on est capable de les encapsuler, c'est ce que fait Sapiens avec ses investisseurs. Mmh. Au profit d'investisseurs particuliers, et ceci, en fait, quel que soit un peu son niveau d'épargne.
D'autant plus qu'il y avait un regard, il y a encore quelques années, sur les valeurs de l'infrastructure, je vous disais, les valeurs ennuyeuses. Ça croît pas beaucoup, c'est du rendement, c'est du coupon, c'est du dividende, on achète ça un peu comme une oblige. Et les dynamiques de développement, elles sont là, elles sont pas prêtes de s'arrêter. Alors certes, ça va pas faire des multiples de valorisation comme on voit dans les semi-conducteurs ou je sais pas quel autre secteur à la mode. Mais encore une fois, il est question d'investir sur ce qui va nous protéger dans le futur, en fait.
Exactement. Et même si, entre guillemets, j'entends votre point de valeur ennuyeuse, ouais. En fait, il existe tellement différents types d'infrastructures.
C'est ça.
Que certaines, effectivement, qu'on appelle l'infrastructure core, qu'on peut retrouver par exemple dans un fonds euro, sécurité infra-euro, qui va servir du 3,5% par an, peut paraître un peu ennuyeux, mais ça reste déjà, en fait, une classe d'actifs avec un impact sociétal et un rendement plutôt intéressant. Mais on peut aller dans l'autre spectre, qui est en fait le private equity des entreprises qui opèrent dans les infrastructures. Mmh. Et là, on peut retrouver des performances du private equity. On peut aller chercher quasiment du 15% de TRI, donc un multiple de fois 2, à condition effectivement d'assumer ce risque associé. Mais l'impact sociétal, il est réel, puisqu'on a effectivement besoin criant d'infrastructures, que ce soit d'ailleurs en France, mais globalement en fait en Europe. Et on a en plus la chance en France d'avoir de très beaux asset managers à l'échelle mondiale, ouais. Ardian, Meridiam, Antin, ouais. Airgreen, Partners Group, qui sont effectivement des acteurs particulièrement performants dans leur domaine.
D'autant qu'il y a, en cas de bonus, une problématique qui est sur toutes les lèvres, qui est celle de la souveraineté. On est au cœur du truc dans l'infrastructure.
Exactement, et on a commencé à toucher du doigt avec effectivement les serveurs, qui sont d'ailleurs un des sujets d'infrastructure. Ouais. On reste quand même assez, côté Sapiens, vigilant en fait, à cette classe d'actifs pour une raison simple, c'est que les valorisations sont particulièrement élevées.
Bien sûr.
Et on peut aussi se poser la question de savoir est-ce qu'on ne va pas se retrouver un jour en surcapacité.
C'est ça.
Et vu l'inertie de ce typologie de projet, on va plutôt nous concentrer sur des infrastructures un peu plus résilientes, notamment la transition énergétique, où effectivement on a un besoin criant et à la limite l'électricité ne sera peut-être pas utilisée sur les serveurs, mais sera utilisée sur un autre sous-jacent.
Ouais,
ce sujet de la souveraineté, il est clé parce que quand les serveurs sont en effet en Europe ou sur le territoire national, c'est une souveraineté indispensable que les investisseurs effectivement peuvent contribuer en fait à avoir tout en ayant une solution d'investissement intéressante et qui est très décorrélée des autres classes d'actifs.
Ouais.
Nous on aime bien dire que quand on regarde le private equity et le MSCI World, on a grosso modo une corrélation de 60%. Les infra versus le MSCI World, c'est moins de 20% de corrélation, donc une forte décorrélation et donc une forte diversification dans son portefeuille.
Alors c'est vrai que l'infrastructure, bon, c'est assez large, je vous l'avais dit, ça va de l'eau, l'électricité en passant par l'intelligence électrique. Moi j'aime bien Schneider Electric et Legrand, c'est un peu l'intelligence électrique. C'est au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut classer sur les principaux acteurs qui vous intéressent, vous?
Alors on va déjà distinguer, nous, deux grandes typologies d'acteurs. On va, ce qu'on va appeler, nous, les acteurs qui vont financer, investir plutôt dans des projets d'infrastructure. Donc, pour l'investisseur, en fait, on va être exposé directement, en fait, sur les projets. Ouais. Des acteurs comme Airgreen, des acteurs comme CVE. Et après, il y a l'autre partie du spectre, dont j'ai parlé, un peu plus risqué, où là, on va faire, en fait, du private equity de sociétés exposées à l'infrastructure. Et typiquement, Antin va investir au capital d'entreprises. Et donc, on a une exposition, de fait, plus large à l'ensemble de leurs projets.
Ouais.
Mais on a une exposition aussi au risque de l'entreprise, au risque de gouvernance, et pas seulement en fait au projet. Donc ça, c'est déjà deux grandes catégories à bien identifier quand on parle d'infrastructure. Mm-hmm. Et ensuite, il s'agit aussi de faire la différence entre est-ce qu'on parle de private equity, donc de capitaux, ou on parle aussi de dette, la dette ayant un profil naturellement un peu moins risqué. Et donc après, une fois qu'on a fait un peu cette catégorie, il s'agit aussi de regarder en fonction de sa capacité d'investissement, est-ce qu'on a une capacité d'aller sur un FCPR à partir de 1000 euros ou un fonds euro, ou est-ce qu'on est considéré comme investisseur professionnel. Et là, on peut aller vraiment sur les fonds professionnels qui vont offrir mécaniquement plus de risques, mais donc plus de performances.
Oui, mais je dirais, on va quand même se poser naturellement moins de questions que si on était all-in sur les semi-conducteurs, etc. Là, il y a quand même heavy assets.
Actifs tangibles, actifs réels, voilà. Et en plus une situation de flight to quality, même en situation de crise.
Oui, voilà.
Rappelons-nous, en fait, en 2008, toutes les banques, effectivement, ne finançaient plus l'économie, et ce qu'elles ont continué à financer, bah, c'est ce service essentiel pour la société, ce sont les infrastructures.
Alors, utile, rentable, sur quel support d'investissement on est ? Vous dites, il y a du private equity, il y a aussi des actions d'entreprise, il y a prendre des parts dans des fonds qui investissent. Est-ce qu'il y a des instruments financiers précis qui peuvent permettre de faire un petit peu la synthèse de tout ?
Alors, il n'existe pas la synthèse de tout, puisqu'en fait, chaque solution doit être un peu sur mesure en fonction du besoin de l'investisseur. Mais on peut faire des business cases tout simple, c'est-à-dire que quelqu'un qui a juste envie d'être exposé aux infrastructures, mais sur quelque chose de 100% liquide, 100% garanti, pourra prendre un fonds euro exposé aux infrastructures. Quelqu'un qui souhaite effectivement une approche complètement liquide, très diversifiée, pourra utiliser un ETF, un tracker sur les sociétés listées exposées aux infrastructures. Et quelqu'un qui est prêt à assumer la maturité, la longévité d'une infrastructure, mais en échange un rendement supérieur, pourra travailler sur ces fonds fermés d'une maturité plutôt d'une dizaine d'années, mais qui offre effectivement un upside, comme on dit, plus important.
Et est-ce que cette optique, cette logique peut permettre aussi de relancer quelque chose qui était en déshérence depuis plusieurs années, à savoir les énergies renouvelables, le photovoltaïque, l'éolien, la géothermie, que sais-je, enfin toutes ces énergies qui ont été mises de côté parce que Donald Trump a dit « drill baby drill » et qu'on a vu notre salut uniquement dans le nucléaire du côté européen. De l'énergie, de toute manière, on va en avoir besoin de partout et de différentes sources. Donc, est-ce que ce n'est pas là aussi une piste à l'intérieur des pistes générales d'infrastructure ?
C'est une piste indispensable, puisqu'on a vu malheureusement l'état de nos finances publiques et que donc ces capitaux privés doivent en fait aujourd'hui massivement s'impliquer dans le développement de ces infrastructures. Elles ont plus la chance souvent en fait de déployer plus rapidement, avec moins de contraintes. Et nous, pour régulièrement échanger quand même avec des gérants de fonds d'investissement, il est clair aujourd'hui que beaucoup de fonds d'investissement français aussi se déportent un peu sur l'est de l'Europe parce que le lancement des projets sont plus rapides, moins contraints, et donc à charge aussi à nos chers députés de faciliter la mise en place de ces projets. Alors on sait qu'il y a toujours ces débats sur certains sujets d'énergie renouvelable. Il y a plutôt un consensus sur le photovoltaïque. Allons-y. On a des capitaux en France, ingénieurs brillants, on a des entreprises brillantes.
Absolument.
Et en plus, c'est une solution plutôt rentable et pérenne pour les investisseurs qui ont besoin aujourd'hui d'investir dans l'économie.
Et voilà, protégez votre portefeuille avec des investissements sur ce qui va nous protéger tous. Et c'est peut-être ça à retenir, le message sous les mains de Jean Galadiman de Sapiens. Merci infiniment
d'avoir
été avec nous pour faire le point sur ces investissements dans les infrastructures de plus en plus indispensables. Tout de suite, le placement à suivre, on va replonger dans le domaine de l'IA.
Merci. Tout pour investir, le placement à suivre.
Romain Joudelat, Rochevel Gestion Privée, bonjour.
Bonjour Antoine.
Merci d'être avec nous en direct. Là, on va faire vraiment appel à votre pif, à votre sentiment de marché de professionnel. Investir dans l'IA, c'est vertigineux, c'est compliqué. Comment ça pèse sur le métier de gestionnaire au quotidien ? Parce qu'il y a investir dans l'IA et profiter des dynamiques de croissance, il y a utiliser l'IA pour un petit peu brasser toutes les solutions de performance qui s'offrent à vous. Ce qui était censé nous faciliter la vie n'est pas en train de tout chambouler en termes de repères, en termes de... On parlait des ratios de valorisation, on parlait de calcul, des dynamiques de croissance, etc. Est-ce que pour l'instant, ce n'est pas plus une prise de tête qu'une véritable euphorie pour le gestionnaire ?
Oui, alors évidemment, pour le gestionnaire, ça pose un certain nombre de questions, et je pense que c'est également le cas pour les investisseurs qui s'intéressent de près à leur placement. Donc, je pense qu'effectivement, avant le départ en vacances cet été, il est urgent de s'intéresser en fait à la concentration de vos portefeuilles, parce que c'est un des principaux sujets. Derrière ces très belles performances, derrière ces valorisations généreuses, on a eu une recomposition de la majorité des indices aux États-Unis, mais pas que, notamment sur les émergents. puisque je vous rappelle, hein, cette thématique a drivé les marchés depuis le début de l'année. On a une performance à deux chiffres sur le marché de Taïwan. On a une performance à deux chiffres sur le Japon, sur le Nasdaq, mais aussi sur le Kospi, donc l'indice coréen, qui fait plus de 100% depuis le début de l'année.
Oui, là, donc, c'est trois chiffres. Oui.
Voilà, là effectivement, on est à trois chiffres, puisque je crois qu'on est effectivement à 102%. Et je dirais même qu'en Europe, où on a beaucoup moins de valeur sur le volet intelligence artificielle, la majorité de la performance a quand même été drivée par cette dynamique. Donc, dit autrement, aujourd'hui, il est important que les investisseurs aient en tête que ça a repositionné leur portefeuille sur, très largement, peut-être sur cette thématique, ou en tout cas, il est indispensable de les étudier parce que, à mon avis, notamment s'ils utilisent des ETF, ils sont probablement exposés, voire très exposés à la thématique.
Alors, il y a ça, l'exposition à la thématique et la nécessaire tentation de vouloir être dans le sillage. Il y a aussi le métier en tant que tel, on y revient. C'est-à-dire, on se retrouve avec des chiffres macroéconomiques qui explosent de partout, des perspectives de rentabilité qui restent encore très très floues, de l'aveu même des grands architectes, hein, de l'intelligence artificielle. Et puis au milieu de ça, ben, il y a le gérant. On arrive à avoir des réflexions de marché qui sont aberrantes des fois. Ouais, il faut acheter telle société. Oh, la marge est tombée à... Le PE est tombé à 40, c'est pas cher. Ben... Ouais, mais on est obligé de reformater son cerveau en se disant, bon, on va peut-être attendre que l'orage passe, on va embrasser ces dynamiques, mais il y a un moment, le rationnel va l'emporter un petit peu. Et c'est de devoir faire la balance entre les deux qui doit être le plus compliqué en tant que pro.
Alors, ça nécessite évidemment de la discipline et de la rigueur, donc voilà. Un cahier des charges d'investissement. Et c'est ça, le plus important. Parce qu'en fait, les marchés sont toujours incertains. On a toujours à certains... Donc, le marché, c'est aussi des cycles. On a eu de nombreuses fois, ces 10, 20, 30 dernières années, à un moment donné, des secteurs ou des marchés dans leur entièreté qui ont été effectivement assez chers. Et donc, cette logique de rigueur et de processus d'investissement est indispensable pour les professionnels, évidemment, mais aussi pour les particuliers. Donc, il est intéressant et indispensable de vous intéresser à votre cahier des charges d'investissement par rapport au budget de risque que vous voulez allouer et donc à l'espérance de rendement que vous pouvez en obtenir sur le long terme. Maintenant, si on rentre un petit peu dans le détail, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce cahier des charges, il va aussi, si vous voulez, être important de le tenir parce que si à un moment donné, vous faites des achats-ventes sur certains marchés en vous disant que par rapport à certaines incertitudes, valorisations, il faut rentrer ou sortir sur certaines valeurs. Le risque, évidemment, c'est de louper au mieux les meilleurs jours de bourse qui feront votre performance sur le long terme et au pire de vous prendre les portes de saloon. Bon, passé une fois ces principes d'investissement, rentrons un petit peu dans l'académique et c'est ce qui insuffle notre philosophie d'investissement au jour le jour chez Rogewell. C'est avant tout des études qui ont été assez fondatrices pour nous. Donc je parle de Brisson Hood et Bibower qui ont sorti une étude sur les déterminants de la performance dans les années 90 qui montre effectivement que l'allocation d'actifs génère plus de 90% de la contribution à la performance sur le long terme, bien avant le stock picking, bien avant également le market timing. Donc cette étude qui a été basée sur des portefeuilles institutionnels étudiés sur 10 ou 20 ans, donc des longues périodes, nous fait penser qu'effectivement chez Rogewell, il faut mettre un maximum d'énergie sur ce sujet-là. Une fois qu'on s'est intéressé à l'allocation d'actifs, il est important pour nous gérants et pour vous investisseurs de se dire au sein de ce cahier des charges, de ces différentes briques d'allocation d'actifs, qu'est-ce que je peux utiliser ? Des actions, des obligations, bien évidemment. Mais on a bien vu les limites de ce portefeuille 60-40 ces dernières années, en 2022 aussi en ce début d'année. Donc on rajoute un peu de performance absolue, ça me semble indispensable et pertinent, et aussi des matières premières. C'est quelque chose que l'on regarde, on va pas reparler du non-coté, qui est évidemment une brique qui, pour les investisseurs qui peuvent se le permettre, qui amène encore davantage de décorrélation.
Oui, mais encore une fois, c'est effectivement très spécifique. J'allais vous dire, ce qui est amusant, c'est que, en fait, il faut revenir aux fondamentaux, tout bêtement. Et vous avez parlé de discipline, et je pense que le terme est bien choisi. Et puis, c'est vous qui étiez venu nous parler justement de cette stat incroyable, de 90% de la performance est issue de la bonne allocation d'actifs. Il faut revenir aux fondamentaux. Quand vous voyez les investissements qui sont faits en ce moment, alors notamment sur des marchés sur lesquels on peut s'interroger du point de vue de la valorisation, Japon, la Corée, Taïwan, etc. C'est des investissements qui sont en plus fait avec un très très gros effet de levier, ce qui provoque une volatilité accrue sur les marchés. Et donc là, nécessité de se hedger.
Exactement, et je dirais même au-delà de ces marchés-là, aussi aux États-Unis. Hein, l'effet de levier n'a jamais été aussi élevé aux États-Unis sur les marchés actions, et y compris sur les marchés technologiques. Donc, le premier point, c'est que nous, on ne va pas parier contre l'IA. Je l'ai dit, on a une rigueur, une discipline. Le but, c'est de revoir ce risque de concentration qui est quand même le risque majeur sur les marchés. Donc, si on revient sur les différentes zones géographiques sur lesquelles on a, ces dernières semaines, réalisé des arbitrages, en premier lieu, on va penser évidemment aux États-Unis, berceau de l'intelligence artificielle et ce fameux indice technologique, le Nasdaq. On est investi sur des outils plutôt ETF sur les États-Unis parce que c'est un marché qui est quand même plutôt efficient. On n'a pas trop intérêt à y dépenser trop d'argent, donc trop de frais pour aller chercher de la gestion active. Ouais. Et donc là, sur les différents ETF que l'on peut construire, on a parfois des positions qui peuvent être les mêmes entre un S&P 500, un Nasdaq ou même d'autres indices plus spécifiques. Donc il est important de venir réduire cette exposition à la thématique IA. Et donc le Nasdaq, pour nous, en premier lieu, a fait l'objet d'une réduction partielle du risque pour aller profiter plus largement d'actions américaines, notamment avec des indices comme le Equal Weight qui vous permet de rentrer de manière équipondérée sur les 500 plus grandes entreprises américaines.
Éviter la concentration.
Exactement. Mais sur les émergents, c'est encore beaucoup plus le cas et peut-être beaucoup moins connu. Si vous regardez les ETF émergents, je pense, les plus investis, et nous, on a fait partie de ces investisseurs, à entrer par exemple sur le Emerging Asia, cet ETF Emerging Asia qui, aujourd'hui, suite à l'explosion des semi-conducteurs, est représenté, non pas principalement par de la Chine et l'Inde, mais par Taïwan et Corée, plus de 62% aujourd'hui, 50% de tech, et trois valeurs qui font 40% quasiment de l'indice.
TSMC, SK Hynix, Samsung.
Exactement, vous les avez cités et c'est tout à fait ça. Et donc, il est important non pas de se désexposer totalement de cette ETF, mais plutôt de venir le diversifier avec des briques pures. Là, on peut utiliser de la gestion passive, mais aussi active, parce qu'il y a des fortes dispersions de la performance, notamment sur le marché chinois. Donc pour être exposé à la croissance domestique mais aussi au secteur technologique, on a notamment le Hang Seng Tech qui est un ETF qui vous permet, qui a subi des fortes contre-performances dernièrement et qui vous permet de rentrer sur des valorisations plus intéressantes. Et on a l'Inde qui a été le marché le plus recherché par les investisseurs, avec des valorisations très généreuses, qui a subi des fortes contre-performances, qui vous permet aujourd'hui de revenir sur ce marché avec des fortes croissances et une démographie quand même qui est l'une des rares positives aujourd'hui.
Oui, mais avec discipline. C'est votre mot, hein, Romain Joudelat, Rochevelle Gestion Privée. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Restez avec nous, petite pause dans TPI, et puis on va parler des arts décoratifs. Direction la Belgique, un des pays berceaux de ce mouvement et de ce marché extrêmement dynamique. On sera avec les spécialistes d'Agut. À tout de suite.
Tout pour investir, le coffre-fort.
Jessica Rémy Catanès de la maison Agut, bonjour.
Bonjour Antoine.
Merci infiniment d'être avec nous. On va faire un focus sur les arts décoratifs. C'est bien beau. Y a un pays qui est un véritable creuset pour ce mouvement, pour ce marché si dynamique, c'est la Belgique. On le sait assez peu. Alors si on reclasse les mouvements artistiques, on a vu pas mal de choses qui sont nées, notamment en France, Art Nouveau avec Hector Guimard par exemple, les portiques du métro, ça vous parle. C'est passé par la Catalogne avec le modernisme, le mouvement du modernisme. Et puis, il y a eu une bifurcation vers la Belgique, où on a à la fois cultivé l'art nouveau, puis l'art déco. Et là, les formes se sont assouplies, se sont simplifiées. Et on arrive à deux noms. Premièrement, Victor Horta, qui est un des architectes les plus connus en Belgique, et celui qui prolonge son œuvre, dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle Adochal, et dont le nom est en train d'exploser sur tous les marchés d'amateurs d'art décoratif. Et est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette œuvre si spécifique et si recherchée du coup ?
Oui, bien sûr. Alors Adochal, effectivement, aujourd'hui, il est probablement considéré comme l'un des designers belges les plus importants, à la fois en Belgique, en Europe et même outre-Atlantique aux États-Unis et même de l'autre côté du monde. Vous parliez effectivement de Victor Horta. On a eu aussi Henri Van de Velde pour le modernisme belge. Et Adochal a commencé à travailler plutôt dans la deuxième partie du XXe siècle.
Ouais. Il est né en 28, hein, si
il est né en 28, ouais. Exactement. Et il ouvre une première galerie qui s'appelle la Galerie Chal en 1961, puis une deuxième en 1965, qui aura vraiment une très grande renommée et qui est considérée comme la période de son apogée. Vous avez derrière vous une table goutte d'eau qui représente vraiment l'une de ses créations les plus emblématiques.
Oui, son chef-d'œuvre, ça, un peu.
Exactement. Ce sont aujourd'hui ses œuvres les plus recherchées sur le marché. Mmh. On a eu la chance d'en présenter une la semaine dernière dans notre vente de design du 23 juin dernier, qui a enregistré un très très beau résultat puisqu'on l'a vendue 100 000 euros. Elle a plus que doublé son estimation puisqu'on l'avait estimé 35 000. Donc on sait aujourd'hui que ce sont ces pièces-là d'Adochal qui sont les plus prisées des amateurs et la vente de la semaine dernière l'a encore confirmé.
Alors c'est très curieux parce que ça nous ramène aux bases de l'art nouveau. Finalement, quand on regarde un petit peu la configuration de la table, on a presque l'impression d'un tronc d'arbre.
Oui, complètement.
Ça nous ramène aux motifs floraux, aux motifs de la nature qui ont animé les premiers temps de l'art nouveau.
Tout à fait.
Et puis qui ont ensuite évolué jusqu'à ce qu'on on affine tout ça justement dans ces formes particulières.
On a presque là un mix entre l'art nouveau avec le plateau, puis l'art déco avec le piétement qui est beaucoup plus géométrique. Cette table, elle s'appelle Goutte d'eau parce que justement Adochal avait une fascination pour les formes que la nature génère spontanément. Ouais. Et en fait, là, il a voulu reproduire dans le bronze une goutte d'eau qui tombe, qui s'étale, puis ensuite qui se fige dans le métal. Donc on est complètement là-dedans. On est beaucoup plus dans le domaine de la sculpture que du mobilier fonctionnel.
Oui.
C'est la période où Chal commence à utiliser le bronze et l'alu, et ça lui permet d'accéder à une monumentalité nouvelle. Mmh. Et vraiment, avec ces tables-là, les tables goutte d'eau, c'est l'expression de sa vision... qui est en train de mettre en place entre le meuble et la sculpture. Et là, en fait, comme le processus de fonte du bronze aboutit à une forme unique, avec des contours, comme on peut le voir, un peu organiques, très libres, on est beaucoup plus dans une sculpture habitable, fonctionnelle, qu'un meuble à proprement parler.
Mais on n'a quand même pas très envie de mettre un café dessus. Non, il faut juste la regarder.
Enfin, le collectionneur belge qui nous l'a confié, puisque c'était un collectionneur bruxellois qui l'avait acquise directement auprès de l'artiste, lui s'en servait comme table de salle à manger. C'est une table...
Ah oui, lui, il la faisait vivre.
Il la faisait vivre, elle était au milieu de sa salle à manger. C'est une table à laquelle on a pu avoir accès dans le cadre de nos journées d'expertise et inventaire qu'on organise avec notre bureau de représentation qu'on a à Bruxelles. Mm-hmm. Et c'est une table qu'il avait acquise au début des années 80, qui date de la fin des années 70, celle-ci, et avec laquelle il a vécu toutes ces années jusqu'à ces derniers mois, et dont il s'est quand même, lui, pleinement servi. Mais c'est vrai qu'elle prend toute la monumentalité de la pièce.
Ah ben oui, ça c'est absolument incroyable. Alors, comment vous expliquez que... Alors, il y a peut-être quelque chose qui explique que, justement, du point de vue patrimonial en matière d'art décoratif, la Belgique soit vraiment une terre d'excellence, dans le sens où on a le souci vraiment d'habiter des maisons de Victor Horta, il y en a partout à Bruxelles. Et on a ce souci de meubler et d'équiper son habitation qui est une œuvre d'art en soi, avec des œuvres d'art. Et c'est peut-être ça qui rend, encore une fois, la Belgique si particulière dans le domaine.
C'est vrai que les Belges ont une sensibilité aux arts décoratifs et à l'architecture du XXe, vous avez raison avant ça, qui est particulièrement prégnante. La France, c'est le cas aussi, mais probablement que la Belgique fait partie des pays européens pour lesquels c'est le plus présent. En effet, Victor Horta, c'est de toute façon la personnalité belge la plus importante, qui a eu une influence mondiale, puisqu'il a eu un rôle mondial dans le développement de l'art nouveau. Mmh. Et après, on a eu Serrurier Bovy qui a pris la suite, qui a commencé à faire une introduction vers le modernisme belge. Mais c'est vrai qu'on a déjà le mobilier, les objets de Serrurier Bovy qui meublaient les maisons d'Horta. Et ça, effectivement, ça s'est poursuivi encore après-guerre, puisqu'on a Jules Waps qui a une présence muséale très forte, qui est vraiment le maître du modernisme belge, qui a eu une influence sur plusieurs générations. Et Adochal s'inscrit dans un positionnement un petit peu plus particulier, parce qu'il peut être... On sent bien l'influence, mais il peut être attaché à aucun courant de cette époque-là en particulier, puisqu'il est vraiment à la frontière entre la sculpture et les arts décoratifs. Ouais. Mais il a une clientèle privée essentiellement, qui lui a toujours été très fidèle, puisque d'abord il y a eu des collectionneurs belges. aussi parce que l'apogée de sa carrière s'est faite en 1971, quand le roi et la reine de Belgique ont offert à Pompidou en visite une table basse qu'ils avaient été eux-mêmes choisir dans la Galerie Char en cadeau diplomatique.
Wow.
Donc ça, voilà, ça a apporté du prestige immédiatement. Il a ensuite été très suivi par l'aristocratie belge, mais aussi par les princes des pays du Golfe. Mais d'abord, ses premiers collectionneurs sont belges. Et évidemment aussi pas loin les Français, parce qu'on n'était pas très loin. Ouais. On s'est très tôt intéressé à son travail.
Ado Chal, donc voilà, un grand nom à suivre, à regarder et puis surtout à rechercher, hein, bien sûr, sur ce marché très particulier de la collection privée belge, mais qui est un véritable creuset pour qui aime l'art nouveau et les arts décoratifs. Merci infiniment de nous en avoir parlé, Jessica.
Merci,
Rémi Catanès de la Maison Agut. TPI, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Marie-Cœur de Roy, les experts de l'IMO dans deux minutes. Et puis, je vous retrouve à 15h30 aux côtés de Guillaume Sombrer pour BFM Bourse. À tout à l'heure.
Pour investir sur BFM Business.